Rencontre autour d'un auteur. Une émission proposée par Nicole Villeroux en partenariat avec la Bibliothèque diocésaine.
Bonjour chers auditeurs, nous voici à notre rendez-vous mensuel dans les pas des écrivains. Et aujourd'hui, on traverse l'Atlantique et je vous emmène découvrir Jack London, sa vie et son œuvre. Alors, Jack London, je vous donne deux dates, vous verrez qu'elles sont malheureusement très rapprochées. Il naît en 1876 et il meurt en 1916. Donc, il a 41 ans quand il décède. C'est une vie brève, mais comme celle des héros antiques, une vie bien remplie, très riche, très très riche et une œuvre considérable. Alors, il naît le 12 janvier 1876. Il s'appelle John Griffith Chaney et il naît à San Francisco. Malheureusement, il tire le mauvais numéro, on va dire. Ses parents sont très particuliers, fuyants, égoïstes, irresponsables. Alors son père, William Chaney, est astrologue. Et sa mère, Flora Wellman, est médium. Alors il faut vous dire qu'à la fin du 19e siècle, les médiums étaient à la mode, on faisait tourner les tables et quelqu'un d'aussi brillant que Conan Doyle a beaucoup donné dans ce genre de sport. Donc Flora Wellman, sa mère, est médium, elle est capricieuse, dépressive et n'a aucun instinct maternel. Donc ce petit Jack tombe dans un milieu quand même particulier. Et lorsque sa mère annonce à son père qu'elle est enceinte, qu'est-ce qu'il fait? Il tente de la tuer. Et comme il n'y parvient pas, il s'enfuit et elle va tenter de se suicider. Elle n'y parviendra pas non plus. Et rencontrera à quelque temps de là un brave homme, Monsieur John London, veuf, qui va donner son nom à l'enfant, l'élèvera comme son fils, et il avait d'un premier mariage une fille, Elisa, qui sera un soutien constant pour Jack, notamment c'est elle qui s'occupera de ses affaires quand il partira naviguer aux îles sous le vent. Alors, il dira qu'il n'a pas eu d'enfance, et c'est vrai, parce qu'il va quitter l'école à 14 ans pour travailler, en faisant des petits boulots dès l'âge de 10 ans. Il quitte l'école à 14 ans, mais dès l'âge de 10 ans, il commence à travailler. Il a quand même un jardin secret, il lit beaucoup, et il y sera encouragé par une bibliothécaire d'Oakland, où il vit, donc c'est près de San Francisco, Ina Golbris, qui va l'encourager absolument à lire. À 14 ans, il entre en usine, travaille 12 heures par jour et découvre la misère de sa classe sociale. Et à partir de 15 ans, il va se mettre à boire régulièrement pour oublier, pour s'oublier. Il deviendra pilleur d'huîtres parce que au large de San Francisco, il y a des parcs à huîtres cela tente aussi les pilleurs. Donc, pendant un certain temps, il sera le pilleur et puis ensuite, dans un second temps, il sera patrouilleur de pêche, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de faire la chasse aux pilleurs. Donc vous voyez, un début dans la vie quand même particulièrement chaotique, mais extrêmement formateur. En 1893, il a 17 ans. Il s'embarque pour une chasse aux phoques au Japon et dans la mer de Bering. Donc c'est une longue navigation. Il sera 8 mois en mer. Et à ce moment-là, il commence à observer autour de lui de façon beaucoup plus tangible. Il fait très attention, il est très observateur, il enregistre. Et en rentrant, il va participer à un concours de nouvelles où il gagne le premier prix. Alors, c'est très important pour lui, encore plus important pour ses parents, parce que, inutile de vous dire que tout son argent, il le donnait à ses parents. Et donc là, tout d'un coup, il peut gagner sa vie, semble-t-il, autrement qu'en s'esquintant à l'usine ou sur un bateau de pêche. Malheureusement, ça ne dure qu'un temps. En 1894, il s'en va sur la route. Il s'en va comme des millions d'Américains à ce moment-là. Il y a une crise économique qui jette sur les routes des dizaines de milliers de gens. Qui prennent alors les routes et le train, ils suivent les voies ferrées et quand ils peuvent croiser un train de marchandises par exemple avec un wagon ouvert, ils sautent dans le train pour avancer un peu plus vite vers les grandes villes. Et cette route, ce long cheminement va être pour lui une école d'écriture. Il va faire travailler son sens de l'observation et son imagination. Puis il va rentrer. Et là, il va se dire que s'il veut écrire, devenir écrivain ou journaliste, il faut qu'il ait une culture plus importante. Et il va s'inscrire à l'université d'Auckland. Il écrira des nouvelles qui seront publiées dans des journaux. Et plus il lit, plus il étudie, plus il est effaré et excité par l'ampleur des mondes qu'il découvre dans les pages des livres. Alors, plus tard, il va écrire un livre magnifique qui s'appelle « Martin Eden ». « Martin Eden » a été adapté il y a 2 ans au cinéma par un Italien qui en a fait une version absolument extraordinaire. « Martin Eden », j'y reviendrai un peu plus tard, c'est l'histoire d'un garçon qui ressemble, c'est un roman autobiographique. Il y a beaucoup de Jack London dans « Martin Eden ». C'est un garçon qui navigue, qui n'a pas d'instruction et qui va découvrir la culture. Et ça va lui ouvrir énormément d'horizons. Alors je vais vous lire un passage de Martin Eden parce que ça correspond au portrait de Jack London à ce moment de sa vie. Alors il a rencontré une jeune fille d'une classe supérieure à la sienne qui fait des études et qui l'encourage, mais qui lui dit « il faut partir, il faut redémarrer dès le commencement ». Donc elle lui donne des cours d'orthographe, des cours pour parler correctement, beaucoup de choses que bien sûr il a négligées. « Je me demande si vous ne pourriez pas me donner un conseil », commença-t-il, et il reçut un signe d'encouragement qui fit bondir son cœur. Vous vous souvenez la dernière fois que je vous ai dit que je ne pouvais pas parler des livres et ce genre de choses parce que je ne savais pas comment? Eh bien, j'ai réfléchi à tout ça depuis. Je suis beaucoup allée à la bibliothèque, mais la plupart des livres auxquels je me suis attaquée étaient trop forts pour moi. Je ferais peut-être bien de commencer par le commencement. J'ai jamais eu de privilège, j'ai trimé dur depuis que je suis gosse. Et maintenant que je vais à la bibliothèque et que je regarde des livres avec un œil neuf et des livres qui sont nouveaux pour moi, je me dis que j'ai pas dû lire ceux qu'il faut. Vous savez, les bouquins qu'on trouve dans les ranchs et les postes d'équipage ne sont pas les mêmes que ceux que vous avez dans cette maison. Eh bien, c'est cela que j'ai l'habitude de lire. Pourtant, et je ne dis pas ça pour me vanter, je suis différent des gens que j'ai fréquentés. Je ne veux pas dire que je vaux mieux que les marins et les cow-boys avec lesquels j'ai voyagé. J'ai conduit des troupeaux pendant un petit bout de temps, vous savez, mais j'ai toujours aimé les livres. Je lisais tout ce qui me tombait entre les mains. Et bon, voilà, je crois que je ne pense pas comme la plupart d'entre eux. Bon, voilà ce que je voulais dire. J'ai jamais été dans une maison comme la vôtre. Quand je suis venue l'autre semaine et que j'ai vu tout ça, vous et votre mère, vos frères, enfin tout, eh ben, ça m'a beaucoup plu. J'avais entendu parler de ce genre d'endroit et lu des choses dessus dans des livres. Et quand j'ai vu votre maison, ce que j'avais lu est devenu vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a beaucoup plu et ça m'a fait envie et ça me fait envie maintenant. Je veux respirer le même air que vous respirez dans cette maison. Un air avec des livres partout, des tableaux, des belles choses. Un air où les gens parlent à voix basse, où les gens sont honnêtes, avec des pensées honnêtes. L'air que j'ai toujours respiré sentait la boustifaille, le meublé, la crasse et la gnôle, et on parlait que de ça d'ailleurs. Mais quand vous avez traversé le salon pour aller embrasser votre mère, j'ai pensé que c'était la plus belle chose que j'avais jamais vue. J'ai pas mal roulé ma bosse et je peux dire que j'ai vu bien plus de choses que la plupart de ceux qui étaient avec moi. Je suis curieux, je veux en voir encore plus et le voir autrement. Bon, mais c'est pas encore ça ce que je voulais dire. Alors voilà, je veux arriver à ce genre de vie que vous avez dans cette maison. Il y a autre chose dans la vie que l'agneau, le turban et le coup de poing. La question, c'est comment on fait pour y arriver? Par où je peux commencer? Je suis prêt à travailler pour payer le billet du passage et je peux abattre plus de travail que n'importe qui une fois que je m'y suis mis. Je trime jour et nuit. Vous allez peut-être trouver bizarre que je vous demande tout ça. Je sais bien que vous êtes la dernière personne au monde, à qui je devrais le demander, mais je connais personne d'autre à part Arthur. Peut-être que je devrais lui demander à lui si j'étais... » Il s'interrompit. En dépit de sa ferme résolution, il ne put aller plus loin. Terrifié, il se prit à soupçonner qu'il aurait dû s'adresser à Arthur et qu'il s'était rendu ridicule. Ruth ne s'exprima pas tout de suite. Elle était trop occupée à essayer d'établir un lien clair entre le discours grossier et trébuchant du jeune homme, si simple dans son contenu et ce qu'elle lisait sur son visage. Elle n'avait jamais vu des yeux où s'exprimait une telle puissance. Cet homme pouvait tout faire. Tel était le message qu'elle y déchiffrait. Et il s'accordait mal avec la faiblesse de sa pensée telle qu'il l'exprimait. Sur ce point, d'ailleurs, sa propre intelligence était trop complexe et trop vive pour apprécier la simplicité à sa juste valeur. Pourtant, elle avait bien perçu la puissance dans cet esprit tâtonnant, qu'elle croyait pouvoir comparer à un géant qui se tord pour tenter de se libérer des chaînes qui le maintiennent au sol. Son visage était toute bienveillance lorsqu'elle prit la parole. « Ce qui vous manque, vous vous en rendez compte vous-même, c'est l'instruction. Vous devriez retourner à l'école primaire, terminer le cycle, puis aller au collège et à l'université. » « Il faut de l'argent pour ça, la coupa-t-il. « Ah, s'écria-t-elle, je n'avais pas pensé à cela. « Mais vous avez sûrement une famille, quelqu'un qui pourrait vous aider. » « Secoua la tête. « Mon père et ma mère sont morts. J'ai deux sœurs, une qui est mariée et l'autre qui va pas tarder à l'être, je suppose. « Et puis j'ai une ribambelle de frères dont je suis le plus jeune, mais ils n'ont jamais aidé personne. « Ils ont filé aux quatre coins de la terre, chacun pensait qu'à eux. « L'aîné est mort aux Indes. Il y en a deux en Afrique du Sud aujourd'hui. « Un autre sur un baleinier. Un autre est trapéziste dans un cirque ambulant. Je crois bien que je suis comme eux. Je me débrouille tout seul, depuis l'âge de 11 ans, depuis que ma mère est morte. Faudra que je fasse des études tout seul. Et ce que je voudrais savoir, c'est par où commencer. » Voilà. Donc, dans ce texte, il y a beaucoup de Martin Eden et de son désir de s'instruire, de se cultiver. Ça, c'est quelque chose qui le mènera toujours. Il va découvrir à ce moment-là, dans les années 1894-1900, le darwinisme social, le philosophe anglais Herbert Spencer, qui était très populaire aux USA. Alors voilà ce que dit Spencer. « La lutte pour la survie, estime-t-il, marque l'évolution des espèces et imprègne tout autant l'espèce humaine. En conséquence, ceux qui l'emportent dans la bataille quotidienne, ce sont les plus forts, les plus doués, les plus méritants. » Se battre est une qualité que le succès récompense, c'est la loi de la nature. Et l'on se bat beaucoup à tous les sens du terme dans les livres de Jack London, au figuré comme au propre. Alors il reviendra plus tard sur cet engouement pour le darwinisme social, mais malgré tout, cette philosophie très dure sous-tend nombre de ses premières œuvres. Il réussit l'entrée à l'examen de Berkeley et il va y étudier jusqu'au mois de février 1897. Et puis après, de 1897 à 1898, il part pour le Grand Nord canadien, dans le Klondike, pour y chercher de l'or. Parce qu'effectivement, on a découvert de l'or dans le Grand Nord canadien. Et c'est une nouvelle ruée qui emporte un nombre considérable de chercheurs d'or vers le Grand Nord canadien. Seulement, c'est un autre climat que la Californie. C'est beaucoup plus dur, d'ailleurs, pour y arriver, c'est déjà compliqué, mais pour y survivre, ça l'est plus encore. Et le Klondike fut pour lui, pour London, ce que fut la mer pour Melville ou le Congo pour Conrad. Et ça va être un révélateur et il en reviendra malade du scorbut. En 1902, il séjourne 7 semaines à Londres, où il se fait passer pour un marin américain et il va être un SDF. Il va se vivre dans la rue, la vie que vivent des milliers de Londoniens misérables. Il va étudier la dégradation économique des pauvres. On est toujours dans les principes du darwinisme social. Et donc, il va aller étudier cela sur le terrain en se mêlant à ces pauvres gens. Alors, en 1903, il publie l'Appel du monde sauvage, qui est un conte animalier. Buck est un chien bâtard qui vit chez des maîtres, c'est un chien de compagnie, et puis un jour il est enlevé et vendu comme chien de traîneau. Donc il va devoir subir une transformation énorme pour survivre, lui qui était habitué à la chaleur du foyer, à la douceur du salon, il va devenir un chien de traîneau, c'est tout à fait autre chose. Et l'appel du monde sauvage, c'est le retour à l'instinct primaire. Le loup va se révéler dans le chien. Et c'est quelque chose, le retour aux instincts primitifs de l'origine. Il faut redevenir sauvage pour cela, tuer le semblable en lui-même pour établir sa différence. Donc c'est un livre qu'une traduction du début du XXe siècle avait complètement châtré, on va dire, pour en faire un livre pour enfants. C'est pas du tout, ça n'est pas du tout un livre pour enfants. L'appel du monde sauvage, c'est un conte magnifique dont je vais vous lire un petit passage. C'est très très beau. Il s'agit de l'histoire du chien Buck. Alors le chien Buck donc est mis dans une meute avec des chiens extrêmement, des vrais chiens de traîneau, hein, donc qui, eux, sont revenus à l'instinct sauvage, et donc il faut qu'il y fasse sa place, il ne faut pas qu'il apparaisse faible, sinon ils vont le tuer. Hein. Donc il faut que lui aussi montre sa force, montre et surtout s'impose par rapport au chef de meute. Donc il va chercher au départ l'occasion de s'imposer. Quand il va comprendre qu'il y a un chef et qu'il faut s'affirmer par rapport à ce chef, il va chercher l'occasion de le faire. L'occasion ne se présenta pas et ils arrivèrent à Dawson par un après-midi morose sans que le grand combat ait eu lieu. Là résidaient de nombreux hommes qui possédaient d'innombrables chiens et Buck découvrit que tous travaillaient dur. C'était dans l'ordre des choses, semblait-il, de faire travailler les chiens. Toute la journée, de grands attelages passaient, repassaient le long de la rue principale, et la nuit, leurs grelots tintinabulaient encore. Ils convoyaient des rondins pour les cabanes et du bois de chauffage qu'ils transportaient jusqu'aux mines et accomplissaient toutes sortes de tâches réservées aux chevaux dans la vallée de Santa Clara. De temps en temps, Buck rencontrait des chiens du Sud, mais pour la plupart, il s'agissait d'une race issue du croisement des huskies avec des loups sauvages. Toutes les nuits, réglées comme une pendule, à 9h, minuit et 3h, il lançait une plainte modulée, étrange psalmodie à laquelle Buck adorait joindre sa voix. Avec les aurores boréales qui flambaient froidement dans le ciel, avec la danse des étoiles dans l'air glacé, avec la terre engourdie et givrée sous son linceul de neige, cette plainte des huskies aurait pu résonner comme un cri de défi lancé par la vie. Mais elle était en mineur, faite de longs hurlements entrecoupés de petits sanglots, et tenait plus de l'imploration qu'on adresse à la vie, exprimant les tourments de l'existence. C'était une très vieille plainte, aussi ancienne que la race elle-même, l'un des tout premiers chants du monde dans sa jeunesse, lorsque tous les chants étaient tristes. Elle était grosse du malheur d'innombrables générations, cette mélopée qui émouvait si étrangement le chien Buck. Lorsqu'il gémissait et sanglotait, c'était pour dire cette douleur de vivre qui jadis hantait ses aïeux du monde sauvage, dire cette terreur et ce mystère du froid et des ténèbres qui n'étaient pour eux que mystère et terreur. Et cette émotion qui l'envahissait montrait combien il revivait pleinement, par-delà l'époque du gîte et du couvert, les âpres commencements de la vie au temps des ténèbres hurlantes. Alors, comme je vous l'ai dit, il va donc à Londres s'immerger au sein des misérables et il va publier un livre qui s'appelle « Le peuple de l'abîme ». Et ce livre est celui qu'il préférait de toute son œuvre. C'est le premier livre consacré à la classe ouvrière et à la pauvreté, écrit par un homme qui, s'il en était sorti, en avait néanmoins une connaissance intime et personnelle. Et dans ce travail, ce livre qui est à lire absolument, c'est extraordinaire, Le peuple de l'abîme, et je crois que malheureusement, avec ce que nous vivons, ça n'a pas perdu beaucoup, beaucoup d'actualité. Il souligne que cette misère économique, cette misère sociale entraîne la dégénérescence des corps. Ces gens qui peuvent être entrés costauds, hein, très vite devenir des loques. Alors, Je vais vous lire la préface de ce livre parce qu'elle en dit beaucoup sur le propos de Jack London. Donc la préface du Peuple de l'Abîme, il a écrit cette préface lorsqu'il est rentré en Californie. Les expériences relatées dans ce volume remontent à l'été de 1902. Je me suis enfoncé dans les bas-fonds de Londres dans des dispositions d'esprit que je rapprocherais de celles d'un explorateur. J'étais prêt à me laisser convaincre par les preuves que j'aurais sous les yeux, plutôt que par les enseignements de ceux qui n'avaient rien vu, ou par les mots de ceux qui avant moi s'étaient rendus sur place et avaient vu. En outre, je suis parti avec quelques critères simples à l'aune desquels évaluer la vie des bas-fonds. Ce qui allait dans le sens de la vie, de la santé physique et spirituelle était bon. Ce qui n'allait pas dans le sens de la vie, l'entamait, la diminuait, la dénaturait, était mauvais. Le lecteur ne tardera pas à constater qu'il y a beaucoup de mauvais dans ce que j'ai vu. Il ne faut cependant pas oublier que l'époque que j'évoque ici était jugée faste en Angleterre. La famine et la pénurie de logements que j'ai rencontrés participaient d'un état de misère chronique dont on ne se débarrasse jamais, même dans les périodes de grande prospérité. L'été en question a été suivi d'un hiver rigoureux. Souffrances et authentiques famines ont augmenté, au point que la société s'est trouvée dans l'incapacité d'y faire face. Des chômeurs en grand nombre ont formé des cortèges, jusqu'à 12 en même temps, qui défilaient quotidiennement dans les rues de Londres en réclamant du pain. Monsieur Justin McCarthy, dans une lettre de janvier 1903 à l'Independent de New York, résume brièvement la situation en ces termes. Les asiles de pauvres n'ont plus d'endroit où entasser les foules criant famine et réclamant un toit, massées nuit et jour devant leurs portes. Tous les établissements de bienfaisance ont épuisé leurs ressources en s'efforçant de trouver de quoi ravitailler les habitants faméliques installés dans les combles et les caves des ruelles et des venelles londoniennes. Les locaux de l'armée du salut installés dans différents quartiers de Londres sont assiégés tous les soirs par des hordes de chômeurs et d'affamés auxquels on ne peut procurer ni toit ni moyen de subsistance. On a avancé que je dressais un portrait trop pessimiste de la situation qui est celle de l'Angleterre. Je me dois de dire à titre d'excuse que je suis le plus incorrigible des optimistes. Cependant, je juge l'humanité à l'aune des individus plus que des agrégats politiques. La société s'épanouit tandis que les appareils politiques se désagrègent et finissent avec la ferraille. Concernant la destinée humaine des Anglais et des Anglaises, leur santé et leur bonheur, je vois un avenir ouvert et radieux. Mais concernant une bonne partie de l'appareil politique qui les administre si mal à l'heure actuelle, je ne vois rien d'autre que le tas de ferraille. Donc voilà la préface au Peuple de l'Abîme. Et cet abîme, ce sont les rues de Londres. Il va publier en 1904 un livre qui s'appelle « Le loup des mers ». Et dans « Le loup des mers », il va se souvenir de sa navigation de 8 mois lorsqu'il est parti à la chasse aux phoques au Japon et dans la mer de Béring. Il y compte l'ensauvagement d'un homme au contact des cruautés des marins et de la violence des éléments. C'est l'histoire d'un apprentissage. Alors en fait, le loup des mers, c'est le capitaine d'un bateau, Lou Larsen. Il se trouve qu'il est dans les parages d'un naufrage. Un bateau de ligne entre l'Angleterre et un autre pays fait naufrage. Et donc, des bateaux viennent porter secours aux naufragés, dont le bateau de Lou Larsen, qui récupère un journaliste. Quelqu'un qui a eu une vie assez, cossue, habitué au confort, etc. Donc, il le recueille et théoriquement doit le ramener à terre, le déposer à terre. Pas du tout. Lou Larsen garde cet homme pour en faire un marin, parce qu'il lui manque un homme. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un acte de piratage. Et puis, à quelques jours de là, il va recueillir une autre naufragée, une femme qui a dérivé longtemps, et qui va venir donc elle aussi sur le bateau et qui elle aussi va devoir vivre de la vie de ces hommes extrêmement vie très dure. Hein. Ce sont des gens qui s'en vont à la chasse aux phoques sous des climats extrêmement rudes et qui sont menés par un personnage. Lou Larsen est un personnage assez très dur, hein, même sauvage, hein, et donc qui va s'efforcer de modeler ces gens, en particulier l'homme qu'il a recueilli, cet homme poli, bien élevé, civilisé, entre guillemets, il va essayer de le faire aussi brutal que le reste de l'équipage. C'est un livre, lui aussi, assez extraordinaire, Ce loup des mers. Alors, voilà un échange de Lou Larsen avec donc cet homme qu'il va peu à peu s'efforcer de transformer. Hump, connaissez-vous la parole du semeur qui était sorti pour semer ? Vous vous souvenez sans doute que quelques grains tombèrent dans des endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre, et ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Et quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les racines et les épines, montèrent et les étouffèrent. « Eh bien, demandai-je. »« Eh bien, répéta-t-il avec humeur. »« Eh bien, vous y êtes. » »« J'ai été un de ces grains, mort étouffé. » Il abaissa la tête sur son échelle et reprit son travail de copie. J'achevais ma propre besogne. Je m'apprêtais à quitter la chambre lorsqu'il s'adressa à moi. « Hump, prenez une carte de Norvège et regardez la côte ouest. Vous y verrez une échancrure appelée Romsaldfjord. Je suis né à moins de 100 milles de ce golfe. Mais je ne suis pas norvégien, je suis danois de naissance, comme l'étaient mon père et ma mère. J'ignore dans quelles conditions ils sont arrivés dans cette anse désolée de la côte ouest. Ils ne m'en ont jamais parlé. C'étaient des gens pauvres et illettrés, et ils descendaient de générations de gens pauvres et illettrés, des paysans de la mer, qui semaient leurs enfants sur les flots, comme cela se faisait depuis toujours. Il n'y a rien d'autre à en dire. « Si, il y a autre chose, » protestait, « je ne comprends toujours pas très bien. »« Que puis-je ajouter ?» demanda-t-il, avec un surcroît de véhémence. « Voulez-vous que je vous parle d'une enfance misérable, d'une existence fruste, avec du poisson à tous les repas, des sorties en mer, dans les bateaux de pêche, avant même de savoir tenir sur mes jambes, de mes frères partis l'un après l'autre pêcher au large et qui ne sont jamais rentrés, de moi qui ne savais ni lire ni écrire, mousse à l'âge respectable de 10 ans sur de vieux rafiaux qui faisaient du cabotage, de la dureté de la vie et de la rudesse avec laquelle j'ai été traité, des coups de pied et des coups de poing qui faisaient office de gîte et de couvert et qui remplaçaient les mots qu'on ne me disait pas. De la peur, la haine, la souffrance qui sont tout ce que j'ai éprouvé dans mon âme d'enfant. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Je me sens devenir enragé rien que d'y penser. Il y a des patrons de caboteurs que je serais volontiers retourné massacrer quand j'ai atteint l'âge d'homme. Mais à ce moment-là, ma vie m'avait entraîné ailleurs. Je suis retourné là-bas il n'y a pas longtemps. Malheureusement, tous les patrons étaient morts sauf un qui était second autrefois. Quand je l'ai revu, il était devenu capitaine. Je l'ai laissé infirme. Il ne marchera plus jamais. Mais vous qui lisez Spencer et Darwin sans avoir jamais mis les pieds dans une salle de classe, comment avez-vous appris à lire et à écrire, demandai-je. Dans la marine marchande anglaise, j'y ai été mousse de cabine à 12 ans, novice à 14, matelot breveté à 16, matelot de deuxième classe à 17, puis cuisinier de gaillard d'avant. Follement ambitieux et désespérément seul, ne recevant ni aide ni sympathie, j'ai tout appris par moi-même, navigation, mathématiques, sciences, littérature, que sais-je. Et à quoi tout cela m'a-t-il servi ? Capitaine et propriétaire d'un bateau au zénith de mon existence, comme vous dites, avec pour seul horizon le déclin et la mort. C'est médiocre, non ? Quand le soleil s'est levé, j'ai été brûlé et j'ai séché faute de racines. L'histoire offre pourtant des exemples d'esclaves qui se sont élevés jusqu'à la pourpre, fis-je, sur le ton de la réprimande. L'histoire offre surtout des exemples d'occasions qui ont permis à des esclaves de s'élever jusqu'à la pourpre, répliqua-t-il d'une voix sinistre. Personne ne crée l'occasion. Le seul mérite des grands hommes a consisté à saisir l'occasion qui se présentait. C'est ce qu'a fait le Corse. J'ai fait des rêves aussi grandioses que les siens. J'aurais su saisir ma chance, mais elle n'est pas venue. Les ronces ont poussé autour de moi et m'ont étouffé. Et maintenant, Hump, je peux vous dire que vous en savez plus sur mon compte qu'aucun autre homme excepté mon frère. Que fait-il? Où vit-il? Il commande le Macédonia, un bateau à vapeur armé en foquier. Nous le rencontrerons probablement sur la côte du Japon. Ces hommes l'appellent Larsène la mort. Larsène la mort, m'écriai-je involontairement. Est-ce qu'il vous ressemble? Pas vraiment, c'est un animal sans cerveau. Il a ma sauvagerie? Oui, merci pour le mot. Toute ma sauvagerie. Mais il sait à peine lire et écrire. Et il ne philosophe jamais sur la vie, j'imagine. Jamais, fit Lou Larsène avec un air d'une indicible tristesse. Et il est très heureux de ne pas se soucier du sens de la vie. Il est trop occupé à vivre pour y penser. Ma grande erreur est d'avoir un jour ouvert les livres. Voilà, encore un personnage, donc à la Jack London, hein, qui s'est fait lui-même, qui a beaucoup appris dans les livres, mais à qui, malheureusement, ça a apporté des désagréments intérieurs. En janvier 1904, Jack London se rend à Port Arthur pour couvrir la guerre russo-japonaise. Et là, il va se faire photographe. En plus d'écrire des articles pour des journaux américains, il fait des photos. Et il m'a été donné de voir un ouvrage sur ces guerres, Jack London photographe, et c'est assez extraordinaire. Il avait aussi un œil très pertinent, un œil de photographe. Il se montre très lucide sur les Chinois et les Japonais et est fasciné par ces hommes qui luttent. Alors, il va réaliser dans les années suivantes un grand rêve. Ses livres se vendent bien, même très bien. Il est très recherché, il est devenu une célébrité. Malheureusement, l'argent lui coule entre les doigts. Il s'est marié une première fois, il a eu deux petites filles. Et puis, il rencontrera une autre femme qui sera véritablement la femme de sa vie, qui lui survivra de nombreuses années. Et un alter ego, quelqu'un qui le comprend parfaitement, qui partage aussi son goût de l'aventure. Et donc, avec elle, il va construire un bateau, le Snark, pour partir dans une longue croisière dans les mers du Sud. Malheureusement, ce bateau va montrer très vite quelques faiblesses. Il faudra le renflouer, lui faire des accommodements. Malgré tout, il va faire une grande croisière d'avril 1907 à juillet 1908 dans les mers du Sud, dont il ramènera des maladies tropicales qui vont abréger avec l'alcool sa vie. En 1908, donc, il publie Martin Eden, qui est son chef-d'œuvre. C'est le rêve de gloire littéraire d'un fils de la classe ouvrière. Et comme je vous l'ai dit, Martin Eden emprunte énormément à l'auteur. Alors, il va dénoncer dans ce livre l'individualisme à travers son héros, Martin Eden, qui est un individualiste. Il a conscience de ses besoins, mais pas de ceux des autres. Il travaille pour lui-même, pour la gloire, pour l'amour, pour satisfaire tous ses besoins égoïstes. Et le jour où il va se réveiller, quand il va comprendre qu'il a fait fausse route, eh bien, il n'aura plus aucune raison de vivre et va se suicider. Martin Eden, c'est un livre qui finit mal. C'est l'épopée d'un échec. Mais c'est un grand livre sur un personnage héroïque. Contrairement à ce que je viens de vous lire, par exemple, Le Loup des mers, ça se termine très bien. Finalement, les naufragés réussissent à s'enfuir et vivent sur une île où on vient les recueillir un jour. Ça se termine bien. L'appel du monde sauvage, le chien Buck va s'ensauvager au point qu'un jour, il pourra retourner vivre avec les siens, avec les loups. Ce n'est pas le cas de Martin Eden. Martin Eden, c'est profondément pessimiste sur la capacité de survivre quand on n'a pas toutes les clés en main. Alors, peu à peu, sa santé se dégrade. En 1911, on va noter une aggravation de son état de santé. Et à l'époque, on soigne certaines maladies, notamment des maladies rénales avec de l'arsenic, ce qui ne fait qu'aggraver les choses. En 1912, alors, c'est un homme aussi des nouvelles. Hein. Il publie énormément de nouvelles, parce qu'évidemment, il peut les placer dans les journaux. Il va publier La peste écarlate. Alors, La peste écarlate, il imagine une épidémie mondiale en 2073. Mais c'est une épidémie de peste. Et donc, toutes les sociétés sont cul par-dessus tête, évidemment. Tout a été bouleversé par cette épidémie de peste extrêmement mortelle. Et il raconte le réveil de la nature barbare de l'homme dès qu'il se sent en danger. Et il dit l'histoire de la civilisation et l'histoire d'une errance, l'épée à la main, en quête de la nourriture. Parce que les gens qui restent, ils n'ont plus qu'un seul souci, c'est de trouver de quoi manger. Ils en sont réduits à l'essentiel, c'est-à-dire se nourrir. Et donc, il leur faut, il y a là un ancien professeur d'université, un homme très savant, qui doit, eh bien, ma foi, retourner lui aussi, comme les autres, à l'état sauvage. Alors, il essaie de polisser ses compagnons, de leur faire comprendre des choses, mais le seul besoin, c'est survivre, c'est se nourrir. Voilà, La peste écarlate. Alors, il va publier aussi Les contes des mers du Sud, dans laquelle il va faire part de sa navigation dans les mers du Sud, de ses rencontres, et combien sa sympathie va aux indigènes dont l'instinct guerrier est dicté par leur culture. Et ces indigènes sont confrontés à la colonisation et donc à l'éradication de leur culture. Et je vais vous lire une de ses nouvelles, un passage qui s'appelle « La maison d'orgueil ». Alors, la maison d'orgueil, c'est l'histoire d'un colon qui découvre que, alors donc avec tous les préjugés des colons, et qui découvre que un individu qu'il méprise souverainement parce que c'est un indigène n'est autre que son demi-frère. Alors l'histoire de la maison d'orgueil, toute cette nouvelle, c'est cette découverte et cette analyse de cette révélation. Du ciel dégagé, où l'on voyait seulement les étoiles et le clair de lune, tomba une pluie si fine et si ténue qu'on aurait dit de l'eau vaporisée. Personne n'y prêta attention, les enfants continuèrent de jouer, de courir jambes nues sur l'herbe et de bondir dans le sable, et au bout de quelques minutes, la pluie avait cessé. Au sud-est, Diamond Head, tache sombre en forme de cratère, se découpait nettement sur le ciel étoilé. À intervalles réguliers, paresseusement, les vagues projetaient leurs écumes au-delà du sable jusqu'à l'herbe et l'on voyait au loin des nageurs comme des petits points noirs sous la lune. La voix des chanteurs qui chantaient une valse se turent progressivement et dans le silence, quelque part, en dessous des arbres, monta un rire de femme qui était un cri d'amour. Il fit sursauter Percival Ford et lui rappela l'expression du docteur Kennedy. Plus loin, près des pirogues à balancier, là où elles avaient été hissées sur la plage, il voyait des hommes et des femmes, des canaques, allongés langoureusement comme des lotophages, et les femmes portaient des holocous blancs, et contre un de ces holocous, il vit la tête sombre du pilote de la pirogue appuyée sur l'épaule de la femme. Plus loin encore, là où la bande de sable s'élargissait à l'entrée du lagon, il vit un homme et une femme qui avançaient côte à côte. Quand ils se rapprochèrent de la zone éclairée du lanai, il vit la main de la femme descendre vers la taille et desserrer l'étreinte du bras qui l'entourait. Quand ils passèrent à côté de lui, Percival Ford salua de la tête le capitaine de sa connaissance et la fille d'un commandant. Les effluves de la vie, c'était bien cela. Cette expression englobait bien des choses. Et de nouveau, sous le caroubier au feuillage sombre, monta ce rire de femme qui était un cri d'amour. Et devant sa chaise, passa un petit garçon aux jambes nues qui allait se coucher, emmené par sa gouvernante japonaise qui le réprimandait. Les chanteurs entonnèrent d'une voix douce et tendre un chant d'amour hawaïen, et les officiers et les femmes enlacées glissaient et virevoltaient sur le lanai. Encore une fois, la femme éclata de rire sous les caroubiers. Et pour tout cela, Percival Ford n'avait que désapprobation. Il était irrité par le rire d'amour de la femme, par le pilote à la tête appuyée sur le haut, le cou blanc, par les couples qui se promenaient sur la plage, par les officiers et les femmes en train de danser, par les voix des musiciens qui chantaient l'amour et par son frère qui chantait avec eux sous le hao. La femme qui riait l'irritait tout particulièrement. Il lui vint des associations d'idées bizarres. Il était le fils d'Isaac Ford. Ce qui était arrivé à Isaac Ford pouvait lui arriver à lui aussi. Cette pensée lui fit monter une légère rougeur au visage et il éprouva un sentiment de honte poignant. Il découvrait avec consternation ce que recelait son sang. C'était comme s'il avait subitement appris que son père avait contracté la lèpre et que son propre sang portait peut-être la souillure de la redoutable maladie. Isaac Ford, l'austère soldat de Dieu, le vieil hypocrite. Où était la différence entre lui et un quelconque pilleur d'épave ? La maison d'orgueil que Percival Ford avait édifiée était en train de s'effondrer autour de lui. Alors, Percival Ford est un puritain, et donc quand il est un industriel très puritain, et quand il découvre effectivement que son père a eu un enfant naturel avec une indigène, tout s'effondre autour de lui, et Jack London le raconte parfaitement. Alors en mai-juin 14, Jack London reprend une pérégrination de journaliste. Il va couvrir la guerre au Mexique et dont il fait l'éloge. Il y fait l'éloge de l'impérialisme américain. Il est très endetté à ce moment-là parce qu'il a construit une grande ferme. Il a acheté des terrains où il a construit une ferme modèle, où il essaie d'appliquer ses principes socialistes. Donc il fait l'élevage des cochons, entre autres. Ses fermiers sont logés dans des maisons tout à fait nanties de tout le confort. Malheureusement, c'est un gouffre. Il ne parvient pas à financer tout ça. Il rêve d'une exploitation agricole idéale. Il essaie de vivre ses utopies. Malheureusement, il n'y parvient pas parce qu'il faut beaucoup d'argent et il écrit, il se tue à la tâche, il est malade et il n'arrive pas, c'est un gouffre sans fond. Alors, il veille particulièrement au confort de ses porcs. Et voilà ce qu'il dit. L'étude de la cruauté envers les animaux constitue une véritable branche de la sociologie. Car les animaux sont essentiellement un facteur constitutif de notre civilisation. Et les torts de l'homme envers les animaux doivent être attribués précisément aux mêmes causes que ceux infligés à l'homme par l'homme. Écoutez, ce texte, à la lumière des récentes décisions, est assez éclairant et n'a rien perdu de son actualité. Et malheureusement, Jack London, qui était un homme, dans la splendeur de sa jeunesse, c'était un homme magnifique, les photos sont là pour le prouver, le grand écrivain La Belle Gueule, malheureusement, est devenu une épave, endetté, alcoolisé, mais alcoolisé aussi fait des mélanges entre ses médicaments et l'alcool, donc ça ne fait rarement bon ménage. Et il décède d'une crise d'urémie à 40 ans le 22 novembre 1916. Donc il meurt très jeune. Et donc sa femme va lui survivre une bonne trentaine d'années. Et elle donnera des interviews, elle parcourra le monde pour parler de son mari, de Jack London. Alors, Jack London avait une grande admiration pour quelqu'un dont nous avons parlé, qui est Joseph Conrad. Les deux ne pouvaient que s'apprécier, parce qu'il y a énormément de choses communes entre ces deux hommes qui se sont... Bon, Jack London n'a pas émergé du même milieu que Joseph Conrad, mais tous deux sont de grands lecteurs, tous deux ont navigué et se sont faits dans la navigation. Et voilà ce que dit Joseph Conrad de Jack London. L'artiste, dont Jack London, parle à notre capacité de joie ou d'admiration. Il s'adresse au sentiment du mystère qui entoure nos vies, à notre sens de la pitié, de la beauté, de la souffrance, au sentiment latent de solidarité avec toute la création. Et à la conviction subtile mais invincible de la fraternité dans les rêves, dans la joie, dans la tristesse, dans les aspirations, dans les illusions, dans l'espoir et la crainte, qui relie chaque homme à son prochain et qui unit toute humanité, les morts aux vivants et les vivants à ceux qui sont encore à naître. Eh bien, je trouve que c'est un très bel hommage à cet écrivain disparu trop tôt, mais qui nous a laissé quantité de textes que je vous encourage à lire. Alors, vous pouvez trouver, si vous voulez aller plus loin, une très bonne biographie de Jack London par Jennifer Le Sieur dans la collection Libretto. Jack London, tout simplement, Jennifer Le Sieur chez Libretto. Vous pouvez trouver dans la collection Libretto également les œuvres de Jack London, hein, ou si vous aimez la Pléiade, en deux tomes, vous avez romans, récits et nouvelles de Jack London dans un coffret. Voilà, alors je vous donne rendez-vous au mois prochain pour cette fois-ci passer dans l'aventure au féminin avec Isabelle Eberhardt. À bientôt.
C'était Rencontre autour d'un auteur par Nicole Villeroux en partenariat avec la Bibliothèque diocésaine.